Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer. Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mes chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 16 août 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'Iran affirme que la relance de l'accord nucléaire de 2015 est possible si les États-Unis font preuve de souplesse. En Cisjordanie, l'armée israélienne a été prise pour cible par des tirs et au Kenya, le vice-président sortant déclare officiellement président élu. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé lundi 15 août qu'un accord sur la relance de l'accord de 2015 concernant le programme nucléaire iranien était possible dans les prochains jours si les États-Unis faisaient preuve de flexibilité en fournissant des garanties sur les demandes de l'Iran. Actuellement, nous échangeons des messages avec les États-Unis sur trois questions spécifiques, a dit M. Amir Abdollahian, ajoutant. Nous avons dit clairement aux États-Unis que si nos points de vue sur ces trois questions qui sont raisonnables étaient assurés, nous étions prêts à rentrer dans la phase d'annonce d'un accord. Le chef de la diplomatie iranienne a révélé que la partie américaine avait fait preuve de flexibilité sur deux questions dans une certaine mesure lors des récents entretiens à Vienne, indiquant que cette flexibilité doit être traduite en texte. La troisième question est également importante pour l'Iran, a-t-il affirmé, car elle est liée aux garanties nécessaires à la levée des sanctions américaines. M. Amir Abdollahian a souligné que le gouvernement iranien ne lierait pas l'économie du pays au résultat des négociations à Vienne. Le dernier cycle de négociations sur le dossier nucléaire iranien s'est tenu début août dans la capitale de l'Autriche. Après une interruption de 5 mois, le 8 août, l'Union européenne a présenté un texte final de son projet de décision sur la relance de l'accord nucléaire de 2015 en attendant les décisions politiques des participants aux discussions de Vienne. L'ambassade de la République islamique d'Iran en Russie a annoncé lundi 15 août qu'une délégation de haut rang de l'état-major général des forces armées du pays est arrivée à Moscou pour participer à la conférence internationale sur la sécurité. À son arrivée à Moscou, le dimanche 14 août, la délégation a été reçue par Kazem Jalali, ambassadeur de la République islamique d'Iran, auprès de la Fédération de Russie. Selon les informations fournies par l'ambassade d'Iran à Moscou, cette année, la République islamique d'Iran participe activement à tous les événements de l'exposition militaro-technique internationale Army 2022, organisée par le ministère russe de la Défense. Des représentants de 9 pays, à savoir la Biélorussie, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, la Chine, le Pakistan, l'Arabie saoudite, la Thaïlande et la Turquie, seront présents à cette exposition. Dans la soirée du lundi 15 août, l'armée israélienne a annoncé que ses soldats avaient essuyé des tirs dans la région de Tulkarem en Cisjordanie à partir de différents endroits, affirmant par ailleurs que les tireurs étaient à bord d'un véhicule. annonçant l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs des tirs. Certains médias sionistes rapportent que les forces de l'armée israélienne ont été prises pour cible alors qu'elles effectuaient une mission de patrouille dans le nord de Tulkarem. Le site d'information Valla affirme que la fusillade a fait plusieurs blessés dans le rang des soldats israéliens, dont certains sont dans un état critique. Parmi eux figure un officier du 90e bataillon qui se trouve en état de mort cérébrale. La chaîne Al Jazeera, citant l'armée israélienne, a fait état de l'envoi de davantage de troupes à Tulkarem. Selon la chaîne 7 de la télévision israélienne, les forces du Shabak ont également été dépêchées sur place pour participer à l'opération de recherche qui jusqu'à présent n'a mené à rien. Le lundi, dans l'après-midi, la base militaire de Zelikan appartenant aux forces turques à Mossoul, dans le nord de l'Irak, a été visée par 4 roquettes de 122 mm. A rapporté la chaîne Telegram de Sabahri News, ajoutant que l'attaque n'avait pas fait de victime. Le groupe Liva Ahrar Irak a revendiqué l'attaque à la roquette contre la base turque. Les groupes de résistance irakiens ont averti à plusieurs reprises la Turquie qu'elle devrait quitter le territoire irakien et que les opérations de résistance se poursuivraient jusqu'à l'expulsion de tous les soldats turcs de ce territoire. C'est dans ce contexte qu'une source de sécurité dans la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, a révélé que des avions américains avaient mené une opération de reconnaissance et de patrouille sans précédent sur la base aérienne d'Ayn al-Assad dans la région d'Al-Bardadi, dans l'ouest d'Al-Anbar. En outre, des sources ont signalé l'atterrissage simultané de plusieurs avions de combat à la base et le transfert des cargaisons. Une série d'attaques drones a touché lundi 15 août la base militaire américaine à Al-Tanf, en Syrie. Une attaque a été menée par 3 drones contre une base des troupes américaines à Al-Tanf, dans l'est de la Syrie, a affirmé le CENTCOM US, prétendant qu'aucune victime ni dégâts n'est à déplorer et que les drones ont été repoussés. D'autres sources d'information indiquent pourtant que les drones kamikazes équipés de missiles ont mené à bien leur mission, touchant leurs cibles malgré tous les efforts de l'armée américaine pour les intercepter. Entre le 20 octobre et le 23 novembre, 2 attaques aux missiles et aux drones de la résistance ont ciblé les positions américaines en Syrie centrale et orientale, l'une visant Al-Tanf, la première base illégale US dans le triangle frontalier Syrie-Irak-Jordanie, base qui sert aussi de relais d'opérations aériennes à l'entité sioniste. Située dans la province de Homs et à 24 km du passage frontalier d'Al-Tanf dans le désert syrien, la base militaire qui abrite quelques 900 militaires américains se situe à proximité de la frontière jordanienne avec la Syrie et non loin de celle de l'Irak. L'attaque contre la base américaine est intervenue quelques heures après que les médias d'État syriens ont rapporté que des avions israéliens avaient lancé une série de frappes aériennes sur des cibles proches de la capitale Damas et de la ville côtière de Tartous, qui abrite une base navale russe. L'agence de presse officielle Sana a déclaré que 3 soldats ont été tués et 3 autres blessés. Des pertes matérielles ont également été signalées. Le vice-président sortant du Kenya, William Ruto, a remporté l'élection présidentielle, a annoncé lundi soir, 15 août, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. M. Ruto a recueilli 7 176 141 voix, soit 50,49% du total des suffrages exprimés devant le vétéran Raila Odinga, chef de l'opposition, qui a recueilli environ 6 942 930 voix, soit 48,85% des votes, a indiqué le président de la commission indépendante électorale. Le président élu, âgé de 55 ans, qui a pris la parole peu après avoir reçu un certificat confirmant sa victoire, s'est engagé à tendre la main de l'amitié à ses rivaux politiques, à unir le pays et à faire progresser la croissance et la prospérité partagée. L'annonce des résultats définitifs a été retardée du fait des échauffourées et d'annonces de fraude électorale par l'équipe de campagne de Raila Odinga. Il reste maintenant à savoir si le vétéran de l'opposition âgé de 77 ans ira ou non en justice pour contester les résultats. La République démocratique du Congo, RDC, a annoncé lundi que l'armée du Burundi a officiellement déployé un contingent dans la plaine de la rivière Ruzizi, dans la province du Sud-Kivu, située dans l'est de la RDC. L'annonce de ce déploiement a été faite dans un communiqué par le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des forces armées de la RDC, FARDC, dans la zone opérationnelle du Sud-Kivu. Le déploiement entre dans le cadre de la décision des chefs d'État de l'Afrique de l'Est pour traquer les groupes groupes armés dans cette partie de la RDC. Les responsables des FARDC ont appelé la population au calme et à collaborer d'une manière franche avec les forces loyalistes et alliées afin de mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières dans cette partie du pays. Cette task force, sous le commandement des FARDC, a pour mission de traquer tous les groupes armés étrangers et locaux afin de restaurer la paix promise par le commandant suprême des forces armées de la RDC, a souligné Marc Elongo, le porte-parole des forces armées de la RDC. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre d'attrition du Hezbollah contre les avions israéliens. Le régime sioniste, qui croyait en sa force aérienne dure comme fer, soit sa soi-disant carte gagnante dans toute confrontation militaire, se voit désormais contrainte d'avouer une chose. Sa carte s'épuise, et de la pire des façons. Il y a 3 jours, les médias libanais ont fait part de l'interception d'un drone israélien dans le ciel de la vallée de Beka. Sans oublier que l'interception du drone israélien a eu lieu dans les circonstances sécuritaires délicates actuelles et sur fond des développements au sujet du dossier des frontières maritimes contestées entre le Liban et l'entité sioniste, ce développement rappelle encore une fois l'équation aérienne que le Hezbollah a imposée au régime d'occupation après la guerre du juillet 2006. Depuis la guerre de 33 jours, le Hezbollah a expédié à plusieurs reprises ses drones en mission dans le ciel de la Palestine occupée d'Israël, drones qui sont tous retournés sains et saufs à leur base. Aussi s'est multiplié le vol des drones israéliens dans le ciel du Liban, surtout après que le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a annoncé en août 2019 que le mouvement de résistance anéantirait tout objet israélien qui entre dans l'espace aérien libanais. Il est vrai que la puissance du Hezbollah a usé la puissance aérienne d'Israël, a fait couler beaucoup d'encre, même au sein des milieux sionistes. L'expert des affaires militaires, Amos Ayrel, a réitéré tout récemment dans une note pour le journal Haaretz que les capacités militaires du Hezbollah à détruire la suprématie aérienne israélienne obligeraient finalement l'armée israélienne à trouver des alternatives pour la collecte d'informations et renseignements sur les activités du Hezbollah. Les milieux sionistes sont d'avis que dans de telles circonstances où les drones jouent un rôle déterminant et considérable dans les confrontations militaires, l'armée israélienne en fait recours de façon très limitée. Et cela alors que le régime se vantait tout au long de ces dernières années de sa suprématie aérienne, répétant sans cesse que le maintien de cette suprématie soit la plus importante doctrine militaire pour sauvegarder la supériorité des unités militaires est une nécessité primordiale. Mais aujourd'hui, comme le reconnaissent d'ailleurs les milieux et analystes israéliens, le Hezbollah a su défier cette puissance militaire israélienne. C'est d'autant plus important qu'Israël se voit aujourd'hui complètement encerclé et à n'avoir en main que sa seule force de l'air, affaiblie et mollasson. Et comment ? Avant cette nouvelle ère Israël-résistance, la guerre que menaient les sionistes contre celle-ci, en général, et le Hezbollah en particulier, consistait à des manœuvres d'ordre de renseignement et d'espionnage, pour lesquelles ils ont beaucoup investi dans le domaine de l'équipement d'espionnage et de reconnaissance, notamment au niveau des drones. Et voilà maintenant, 30 ans après la naissance du Hezbollah et ses combats contre l'armée israélienne, le régime n'a qu'à reconnaître que sa suprématie aérienne a été usée et qu'il fallait trouver une autre stratégie non basée sur les chasseurs pour faire face à la résistance. Les analystes militaires divisent les capacités de la force aérienne de l'armée sioniste en 2 parties. L'une concerne la supervision et le contrôle, tandis que l'autre concerne les raids aériens ou par missiles et bombes téléguidées. Or, au sujet de la supervision et du contrôle, le Hezbollah a bel et bien pénétré les positions de l'ennemi sioniste à divers niveaux, tout en sauvegardant sa puissance de dissuasion et empêchant les activités d'espionnage de l'ennemi au Liban. Le Hezbollah s'est aussi acquis de renseignements sensibles, mis au grand jour, à titre d'exemple, par la diffusion récemment d'une vidéo qui dévoilait les coordonnées des positions gazières offshore israéliennes au large de la Palestine occupée d'Israël. Mais ce n'est pas tout, car parallèlement, les systèmes de défense aérienne du Hezbollah ont fait ces derniers temps preuve de succès remarquable dans l'interception des cibles sionistes, conduisant le régime à réduire le nombre de vols de ses drones dans le ciel libanais. On est témoin, par contre, des opérations successives réussies des drones du Hezbollah contre les positions de l'ennemi sioniste, un dernier drone ayant été abattu à la Beka. Quant au régime sioniste, il n'a enregistré, et cela depuis 2006, aucune opération réussie dans la collecte de renseignements sur les capacités du Hezbollah, ni aucune opération militaire ou raid aérien contre le Liban. La raison ? Il faut la chercher dans les équations de dissuasion que le Hezbollah a imposées et que les sionistes n'ont rien pu faire jusqu'à présent pour l'affaiblir. Les sionistes ont ainsi perdu peu à peu leur capacité dans le domaine du contrôle et de la supervision aérienne et des opérations d'espionnage et ont perdu du plomb dans le ciel. À ceci s'ajoute la promotion considérable des capacités militaires de l'axe de la résistance. C'est justement ce qui inquiète Tel Aviv, qui se voit bien impuissant, en dépit de tous les armes et équipements militaires lui fournis par les États-Unis et au nombre desquels figure de plus en plus exclusivement la TCA.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le président français Emmanuel Macron a signé le protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. C'est une signature purement et hautement symbolique, car tous les 30 États membres doivent donner leur accord. La Finlande et la Suède ont décidé de sortir de la neutralité dans différentes crises, particulièrement dans les crises sécuritaires. Bien sûr, il serait étonnant que la Turquie participe, car la Turquie a menacé de geler le processus. La Turquie est également membre de l'OTAN. Et bien sûr, le Parti des travailleurs kurdes, le PKK, est le bienvenu pour la Finlande et la Suède, alors que tous les alliés de Ankara considère ce parti comme une organisation terroriste. Nous allons apprendre davantage à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Avec l'abstention des élus RN et le vote contre de députés LFI, le texte qui ratifie l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN est passé haut la main à l'Assemblée nationale. Le Parlement français a ratifié les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN par un vote de l'Assemblée nationale le 3 août, après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'opération militaire russe en Ukraine. Les députés ont adopté le texte par 209 voix contre 46, avec le soutien de LR droite, du Parti socialiste PS et des écologistes, l'abstention du RN et le vote contre LFI. Suède et Finlande ont toutefois besoin d'une ratification des 30 États membres de l'organisation pour bénéficier de la protection de l'article 5 de la Charte de l'OTAN en cas d'attaque. Pour l'OTAN, c'est l'heure du réveil après la mort cérébrale décrite par Emmanuel Macron, a estimé le président centriste de la Commission des affaires étrangères, Jean-Louis Bourlange, Modem. L'insoumis Aurélien Saint-Toul a dénoncé un processus dangereux avec la superposition de l'OTAN et de l'Union européenne. Laurent Jacobelli, RN, a critiqué un signal de défi à la Russie avec ce processus d'adhésion en présentant l'OTAN comme une vitrine commerciale du complexe militaro-industriel des États-Unis.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour, et aujourd'hui je suis depuis Paris.
D'accord. Excusez-moi, donc de Paris, et un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, et aussi à M. Cornu, que je retrouve toujours avec plaisir.
D'accord, c'est un débat, donc. J'espère que vous allez vous contredire si vous n'êtes pas d'accord. Alors, ma première question va s'adresser à M. Bernard Cornu, depuis Paris, donc. M. Cornu, alors, d'un coup, la France décide de signer le protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède, donc à l'OTAN. Alors, pourquoi ça? Car c'est une signature hautement symbolique, n'est-ce pas?
C'est symbolique, comme le reportage l'a souligné, parce qu'il faut qu'il y ait une unanimité des 30 membres actuels. Et il y a encore quelques États qui n'ont pas signé dans l'Europe de l'Ouest et au sein de l'Union européenne. La France vient de signer, enfin le président a confirmé le vote du Parlement. Mais la Turquie a posé ses conditions lors de la dernière réunion de l'OTAN à Madrid fin juin. Et elle a dit qu'il fallait que les gens qu'elle désigne comme terroristes et qui sont résidents, les Kurdes turcs qui sont résidents dans ces pays, notamment en Suède, soient jugés, condamnés, selon le point de vue du président turc, mais effectivement selon la loi suédoise ou finlandaise et selon aussi les recours possibles de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en fait, là on voit, ce n'est pas un chantage, mais ce sont le constat qu'il n'y a pas de juridiction, qu'il n'y a pas de justice universelle et que chaque pays a ses lois, chaque pays a sa propre définition de ce qu'est un terroriste ou ce qu'est que le terrorisme. Et donc, il y a des divergences sur l'appréciation des actions militantes, d'opposition plus ou moins violentes face à des États plus ou moins violents. En fait, on dit toujours que l'État a le monopole de la violence légitime. Quand il fait face à une émeute armée. Et donc, en fait, on a aussi ce problème de ce que c'est la démocratie, ce qu'ont les droits de l'homme. Il y a des divergences dans tous les pays. Et tant qu'on n'a pas des moyens de justice universelle, dans lequel même les chefs d'État ne pourraient pas échapper à cette justice universelle, ou disons, sinon, qu'on ait une convergence des systèmes juridiques, des définitions, des points clés de ce qu'est une agression, de ce qu'est une guerre, de ce qu'est une rébellion, ce qu'est une rébellion armée, et donc ce qu'est le terrorisme, on ne pourra pas sortir de ce dilemme, de cette difficulté, de trancher des cas difficiles comme ça. Donc, en l'absence de ça, je pense qu'effectivement, le président turc ne soumettra pas la question à son Parlement pour éviter qu'il y ait effectivement une ratification complète, une intégration de ces deux pays, Finlande et Suède, dans l'OTAN. Donc je ne pense pas que c'est un chantage, c'est une divergence des systèmes de justice, des systèmes de définition terroriste, et c'est grave, parce que ce que moi je considère, ou ce que certains considèrent comme une guerre d'agression, il y en a eu récemment, depuis 20 ans, en 2003, en 2011, il n'y a pas eu de parcours de la justice pour mettre en justice les responsables de ces guerres d'agression. Donc, vous voyez, c'est un problème très large, c'est le problème de la justice universelle qui puisse s'étendre à l'ensemble du monde entier sur les mêmes principes juridiques et pour pouvoir attaquer quiconque devrait se présenter devant cette justice.
Absolument. Oui. Monsieur Luc Michel, bon, déjà, le président français savait que la Turquie, entre autres, allait s'opposer, donc allait geler le processus donc, de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Pourquoi faire ce symbole, enfin cette signature? Quelle est vraiment l'attention du président français? Monsieur Luc Michel, est-ce que vous nous entendez? Malheureusement, nous avons un petit problème technique et nous allons continuer avec Monsieur Bernard Cornu qui est avec nous depuis Paris. Alors, Monsieur Cornu, bon, en attendant qu'on entende Monsieur Luc Michel, déjà que le président français savait donc absolument que cette décision allait être opposée par la Turquie, qui allait justement geler le processus de l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Mais il faut le dire quand même que d'un coup, la Finlande et la Suède décident de sortir de la neutralité et de défendre peut-être la cause européenne dans les différentes crises, entre autres la crise ukrainienne, par exemple.
Ça, de toute façon, c'est très clair que c'est l'action de la Russie envers l'Ukraine qui est fait suite à des problèmes non résolus, à une avancée de l'OTAN à l'encontre de promesses, au contraire de promesses orales, mais très sérieuses, qui avaient été faites. Ceci a abouti, faute d'un accord, faute de négociations sur le processus de Minsk, à, disons, une agression ou une opération spéciale, comme le déclare la Russie, mais qui est une opération armée très grave et qui a fait déjà beaucoup de victimes, beaucoup de débats face à des responsabilités qui ne sont pas encore établies. Je vais profiter encore de l'absence de M. Michel pour dire que ce problème concerne aussi la France, puisqu'on est ces jours-ci l'anniversaire, il y a une trentaine d'années, du massacre de militants de Nouvelle-Calédonie qui étaient très actifs pour demander l'indépendance, qui avaient même pris des personnes en otage, mais la France officielle les a considérés comme des terroristes et elle a décidé d'une opération qui a tué toutes ces personnes dans la grotte d'Ouvéa. Et je rappelle aussi que le président Mitterrand, quand il y a eu le début de la rébellion en Algérie, y compris par les armes, le 1er novembre 1954, M. Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur, a traité tous ces gens-là de terroristes. Donc vous voyez, c'est le problème de la capacité d'une justice universelle qui puisse apporter des définitions claires sur ces problèmes de rébellion, de soulèvement et aussi d'action militaire des États.
Michel, vous êtes avec nous donc depuis Bruxelles. Quelle est l'attention du président français? Est-ce qu'il faut croire dans la bonne volonté du président français dans la signature du protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède, alors qu'il sait très bien que ce protocole ne va pas être accepté par certains membres, dont la Turquie?
Il y a une série de choses qu'il faut dire, c'est-à-dire que tous les débats sur la justice universelle, le terrorisme, etc., ce sont des sucreries empoisonnées de l'agenda occidental qui ne concernent pas le reste de la planète. Il y a quatre choses à dire. Tout d'abord, c'est qu'à l'occasion de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont resserré une étreinte totale sur l'OTAN. Les projets de défense européenne et autonome, toutes ces imbécilités que Macron prétendait défendre, eh bien, il vient de démontrer que celles-ci n'existent plus. Mais en fait, la soi-disant neutralité de la Finlande et de la Suède n'existait déjà plus depuis des années, puisqu'elles étaient intégrées militairement déjà dans l'OTAN et qu'au niveau de leurs armements, elles sont entièrement équipées par des équipements américains. Mais il y a une immense hypocrisie dedans. Tout d'abord, l'hypocrisie, elle concerne le PKK, puisque ces gens qui sont considérés comme des terroristes par les Turcs, ce sont les principaux alliés des États-Unis dans le nord-est de la Syrie, sur l'Euphrate. C'est grâce au PKK et à leur branche syrienne, les FYD, que les Américains occupent le territoire syrien et volent le pétrole et le gaz syrien. La seconde hypocrisie, c'est qu'on a dit aux...
Malheureusement, notre liaison a été coupée depuis Bruxelles. Monsieur Bernard Cornu, votre réaction jusqu'ici face aux propos de Monsieur Luc Michel?
Je crois que nous sommes d'accord, c'est qu'il n'y a pas de justice universelle. En revanche, j'insiste qu'elle serait possible, il faut la faire, il faut que les peuples demandent ces actions, qu'il y ait la création d'une justice universelle, d'une extension des pouvoirs, des moyens et de la compétence de la Cour pénale internationale pour qu'on puisse justement assurer des définitions du droit, qu'est-ce que le terrorisme, qu'est-ce qu'une agression armée, et qu'on puisse juger justement des responsables d'agression armée ou de menaces ou de chantage pour qu'il y ait moins de divergences entre les perceptions de la justice dans les différents pays. Effectivement, aujourd'hui, l'OTAN et les pays principaux de l'OTAN, les États-Unis qui le conduisent, font ce qu'ils veulent parce qu'ils se sont assurés d'une impunité totale. Et la France aussi, dans certains cas, elle s'est assurée aussi d'une impunité face à des actions militaires. Et l'Angleterre aussi, d'ailleurs, souvent en collusion avec les États-Unis. Donc, je crois que nous sommes d'accord. C'est, monsieur Luc Michel est en colère parce qu'il n'y a pas du tout de justice. Il y a donc beaucoup d'hypocrisie. C'est vrai que la Suède et la Finlande se sont armés avec les armes américaines pour la plupart de leur équipement. Voilà. Mais je crois que nous sommes d'accord. Mais moi, je dis qu'il y a des solutions et que les solutions sont l'émergence d'une justice universelle qui puisse mettre fin à l'impunité, car l'impunité est toujours la mère de la prochaine guerre.
Monsieur Cornu, enfin, tant que l'hypocrisie demeure au sein de la société, donc, comment on peut espérer une justice universelle?
Ben, il faut justement communiquer là-dessus, montrer au grand public que c'est ceci qui est l'exigence, rappeler que les chefs d'État des pays membres du Conseil de sécurité se sont assurés de l'impunité eux-mêmes et qui donc feront changer le système des Nations Unies. Et je sais que le mouvement des non-alignés, par exemple, une des organisations créées à Bandung il y a maintenant plus de 50 ans, 70 ans, près de 70 ans, demande cette réforme de l'ONU pour qu'il soit mis fin à ce pouvoir exorbitant.
Absolument.
Des cinq membres permanents, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et la France. Donc je pense qu'il faut communiquer là-dessus plus largement et dire qu'il y a des solutions pour donner espoir aux gens que dans tous les pays, que ce soit au nord, chez les pays riches ou des pays occidentaux, qu'il fallait une justice. Et pour compléter cela, d'ailleurs, il faut que cette justice universelle ait des moyens. Et comme je l'ai souvent dit à ce micro, l'essentiel pour assurer la solidarité, c'est d'avoir une taxe globale que le monde entier paye. Et la meilleure assiette pour cela, ce sont les armements, les productions d'armes, les consommations d'énergie fossile et aussi les transactions financières qui assurent actuellement la croissance des inégalités. Parce que dans le système actuel financier, quand on est déjà assez riche, on peut se payer un conseiller financier, faire circuler l'argent dans le monde entier et s'enrichir. On le constate maintenant depuis 30 ou 40 ans, on ne cesse d'avoir une croissance des inégalités.
Absolument.
À la fois entre les pays et entre les personnes.
Oui.
Comme vous le savez, un petit nombre de personnes aux États-Unis et même aussi en France possèdent une grande partie des ressources, enfin des ressources financières, des biens du pays. Donc ceci est très injuste. Et il faut le corriger par des mesures de justice très fortes.
Absolument.
Je pense qu'on peut prendre conscience de cela si on en parle largement dans les médias.
Absolument. Monsieur Luc Michel, je vous demande de bien vouloir nous excuser pour donc, ce problème technique. Alors, vous étiez en train d'évoquer les quatre points et vous êtes arrivé à l'hypocrisie de certains membres de l'OTAN.
Avant, je voudrais dire quelque chose. Je suis opposé totalement à l'idée de justice universelle. C'est une théorie qui est une des théories de l'impérialisme américain. Elle est défendue en particulier pour George Soros. Je défendais devant le tribunal pénal contre la Yougoslavie, avec mon ami le regretté avocat Jacques Vergès, le président yougoslave Milosevic, et nous avons vu combien toutes ces idées de justice universelle étaient défendues par nos ennemis. Donc j'y suis totalement imposé. Je ne pense pas qu'on gagnera quelque chose et à reprendre les théories de l'agenda américain. Maintenant, ceci nous éloigne du débat sur l'OTAN. Il y a quatre choses à dire. Tout d'abord, c'est qu'il y a une hypocrisie sur le PKK, puisque le PKK qui est défini comme terroriste par la seconde armée de l'OTAN, la Turquie, c'est la principale alliée des États-Unis en Syrie qui permet l'occupation du nord de l'Euphrate par les États-Unis et le pillage du gaz et du pétrole russe. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que l'OTAN prétend auprès des Suédois et des Finlandais qu'elle va assurer leur sécurité vis-à-vis de la Russie, alors qu'elle met gravement en danger ces deux pays, puisque le déploiement des armées de l'OTAN aux frontières de la Russie, avec probablement des armes nucléaires tactiques telles qu'il y en a déployées sur les bases américaines de Kleinbrogel en Belgique et de Rammstein en Allemagne, vont faire que ces deux pays deviennent des cibles nucléaires pour la Russie. La seconde chose qu'il faut dire, c'est que c'est toute l'hypocrisie de Macron lui-même. Macron prétend qu'il voulait une défense européenne autonome, etc. Et en fait, les États-Unis resserrent une empreinte totale sur l'OTAN. Ils dominent totalement les pays européens par l'OTAN. C'est à cela que l'Ukraine sert de prétexte, évidemment. La troisième chose, c'est que l'idée des pays neutres, elle est en train de disparaître. Il n'y a plus la Suède, il n'y a plus la Finlande, mais il y a un troisième pays qui est concerné, et c'est plus grave encore, c'est la Suisse. Il y a 48 heures, la Suisse a proposé de représenter à Moscou les intérêts de l'Ukraine, et la diplomatie russe a refusé en expliquant que la Suisse n'était plus un pays neutre, mais qu'il était un pays ennemi de la Russie et allié de l'OTAN. Ça fait 20 ans que l'armée suisse a des missions militaires aux côtés de l'OTAN en Afghanistan depuis l'agression de ce pays par les Américains. Donc les Américains sont en train de détruire l'idée de neutralité et ils sont en train de détruire la sécurité internationale. C'est cela qu'il faut retenir de tout cela. Tout le reste, ce sont des faux débats ouverts par les Américains, les idées de justice internationale, la querelle sur le PKK, etc. Tout ceci, en fait, ça désigne en plus une grande opération de remodelage au profit de l'impérialisme américain.
Oui, un quatrième point, M. Luc Michel.
Oui, il faut retenir encore une dernière chose dans cette affaire, c'est que maintenant, évidemment, l'OTAN se rapproche dangereusement des frontières de la Russie et donne raison à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a lancé une opération spéciale en Ukraine pour empêcher l'OTAN d'être déployé en Ukraine. Et maintenant, on déploie aux frontières de Leningrad, à 30 km de Leningrad, on déploie les armées de l'OTAN en Finlande et autour de la mer Baltique. La mer Baltique, jusque maintenant, c'était un espace de coopération entre les différents pays comme l'Arctique. Aujourd'hui, avec l'entrée de la Suède et de la Finlande, on va en faire un espace de guerre, d'autant plus que la Russie ne va pas se laisser faire et que l'enclave de Kaliningrad qui est déployée, qui est un territoire russe entre la Pologne et l'Allemagne et la Lituanie, aujourd'hui va devenir une plateforme militaire de l'armée russe pour neutraliser les flottes de l'OTAN dans la Baltique. Donc une fois de plus, l'OTAN bien de favoriser la paix et d'être, comme elle le raconte, le bouclier de l'Europe. L'OTAN, c'est un facteur qui aggrave la confrontation mondiale et les risques de guerre.
Tout à fait. Monsieur Cornu, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Je suis tout d'accord avec lui pour dire que l'extension de l'OTAN, depuis longtemps, est un facteur de risque, un facteur de danger très grave pour l'Europe et l'entrée éventuelle de la Finlande et de la Suède aggraverait encore ce risque et ce danger d'armement et on consacrera encore plus dans les pays occidentaux d'argent pour l'armement. Donc tout ça, je le rejette aussi. Là, le seul point où je ne suis pas d'accord, c'est que l'extension d'une justice universelle n'est pas du tout un agenda américain. Au contraire, ils craignent ceci, ils ne sont pas entrés dans le traité de Rome de la Cour pénale internationale, ils ne veulent pas son extension, ils ne veulent pas actuellement d'une réforme de l'ONU. Donc effectivement, ces réformes, cette extension de la justice universelle, d'autre part, et j'ai cité par exemple tout à l'heure, le mouvement des non-alignés qui se relance, qui se réunit à nouveau et qui, disons, représente une très grande fraction de l'humanité, des peuples du monde. Et donc je pense qu'il y aura un mouvement fort pour contester le système actuel et le réformer dans un sens de justice. Et je ne crois pas que ceci soit un agenda du gouvernement américain, qu'il soit démocrate ou qu'il soit républicain.
Monsieur Luc Michel, vous voulez bien réagir, je vous prie.
Capturer ce que je viens de dire, ce n'est pas un agenda du gouvernement américain, mais c'est un agenda des réseaux mondialistes américains, ceux de Soros, d'Obama, de Clinton, etc. Le plus grand défenseur de la justice indépendante, c'est George Soros, et c'est le grand financier actuellement de la CPI et du Tribunal pénal international que j'ai. Il faut ajouter une chose, puisqu'on parlait des non-alignés, c'est que le soi-disant justice internationale, elle a servi puissamment à détruire la Yougoslavie qui n'existe plus aujourd'hui, en attaquant frontalement le gouvernement de Milosevic. C'est au Tribunal pénal pour la Yougoslavie de La Haye qu'on a achevé de détruire la Yougoslavie. Il faut donc évidemment constater que la soi-disant justice internationale, c'est toute l'hypocrisie des Américains. Ils n'ont pas signé les statuts de Rome, ils refusent de s'y soumettre, mais ils veulent que tous les autres pays de la Terre acceptent de s'y soumettre. En particulier, ils ont à deux reprises, au moment de la guerre contre la Géorgie et maintenant de la guerre contre l'Ukraine, ils tentent de faire poursuivre d'ailleurs par la CPI, la Russie qui ne se laisse pas faire. Donc, la CPI, moi je connais bien le problème parce que je la combats depuis 20 ans, en particulier en Yougoslavie et en Afrique. C'est un instrument puissant des pays occidentaux et de l'OTAN. Mais les Américains ont, par leur immense hypocrisie, évidemment, ont refusé de se soutenir à ce système, alors qu'ils présentent, ils soumettent tous les autres pays de la Terre.
Monsieur Bernard Cornu, un dernier mot pour terminer, je vous prie.
On serait d'accord, mais il sera universel, effectivement, quand on verra devant cette justice le monsieur Bush, monsieur Blair, monsieur Cameron, monsieur Sarkozy et quelques autres que je ne vais pas citer ici, mais que vous pouvez bien aussi identifier facilement. Voilà, c'est pour dire que nous sommes à peu près d'accord. C'est difficile, mais il faut en parler et il faut y arriver. Et je pense que ce sera universel lorsque, effectivement, les agresseurs récents seront devant cette justice. Mais ça ne viendra pas du côté américain, en tout cas.
Absolument. Bernard Cornu, expert des questions internationales depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. قطب دین محمود ابن مسعود ابن مصلح کازرونی کنو سولونون دو قطب دین شیرازی الان ده سیانتیفیک زیرانیان دو سیتیم ای دو دبو دو ویتیم سیکل دو لجیر لونر کی ها جوی ان رول امپورتان دان لو دیولوپمان دو لا ساجس ای دو لا فیلوزوفی می ایگالمان دو لا فیزیک ده سیانس ناتورل دو لا میدسین ای دو لار. L'Iran et l'UNESCO ont célébré le 1250e anniversaire de la naissance de Rotbeddin Shirazi en 2011. L'Iran est l'un des plus grands territoires qui a joué un rôle majeur dans le développement des sciences et de la civilisation humaine, ainsi que des sociétés humaines en général. L'Iran, comme d'autres pays, en plus d'avoir une géographie politique définie par des frontières, a une géographie culturelle très riche, influente et vaste qui continue de vivre au-delà des frontières politiques. Sans aucun doute, cette culture riche et variée est redevable aux grands penseurs qui ont consacré leur vie et leurs biens au développement à l'ampleur du pays et dont certains sont hélas restés méconnus pour ne pas dire inconnus dans le monde. En fait, aujourd'hui, toutes les intentions sont tournées vers l'Occident et les scientifiques occidentaux et cela est dû à la renaissance scientifique et culturelle de l'Occident à partir du XVe siècle. L'un des grands acquis de la Renaissance a été la collecte d'informations liées à différentes sciences et aux acquis scientifiques de la société humaine. Pour cette raison, les acquis des scientifiques iraniens du passé, tout comme ceux de certains autres pays, ont été soit ignorés, soit attribués à leurs semblables occidentaux. L'un de ces grands savants iraniens qui a fait un grand pas dans le progrès scientifique et le développement de la société humaine est Rotbeddin Shirazi. Qutbeddin Shirazi est l'un des scientifiques iraniens du 7e et du début du 8e siècle de l'égir lunaire. Il était le fils de Maulana Zainuddin, un célèbre médecin et l'un des chers soufis, né en 1236 après Jésus-Christ à Khazerun. Il a appris la médecine auprès de son père et de son oncle. Shirazi a perdu son père à l'âge de 11 ans et il a pris sa place comme ophtalmologue à l'hôpital Muzaffari de Shiraz. En plus de la médecine, Qutbeddin a commencé l'apprentissage d'autres sciences telles que les mathématiques, la philosophie, la littérature, la théologie. Il a par ailleurs appris la musique, à jouer de la harpe, à composer des poèmes, à jouer aux échecs grâce à des techniques phénoménales. Pendant un temps, il exerce le métier de juge et devient l'un des meilleurs de son époque. Il a rédigé plus d'une vingtaine d'ouvrages en persan et en arabe. Bien sûr, ses œuvres enregistrées dans différentes sources atteignent plus de 50 d'œuvres. Mais ce qui est disponible est limité, et parmi eux, deux de ses œuvres les plus importantes sont « Perles de la couronne, meilleure introduction à la sagesse » et « Commentaires de la théosophie de l'Orient » de Sohrawardi. Le premier livre reflète ses opinions politiques sur la société, la politique et le gouvernement. En plus de son grand intérêt pour diverses sciences, Qutbeddin Shirazi n'est pas resté à l'écart des événements de son temps, de la vie mondaine et de la vie politique, et a passé une grande partie de sa vie à des postes gouvernementaux, a même servi dans les cours des sultans. Il était l'élève de Khwaja Nasiruddin Tusi, a appris de lui des leçons intellectuelles, la logique, les mathématiques, et il a étudié auprès de lui le livre du canon d'Avicenne. Parallèlement, il a été l'assistant de Khwaja Nasir dans la fondation d'un observatoire en Iran. L'œuvre la plus importante de Qutbeddin Shirazi, Perles de la couronne, meilleure introduction à la sagesse, est considérée comme une encyclopédie philosophique qui a été rédigée entre 693 et 705 de l'égire lunaire pour l'un des émirs iraniens. Le traité des sélections de Muzaffar est une compilation des deux ouvrages Perles de la couronne, meilleure introduction à la sagesse, et commentaires de la théosophie de l'Orient de Sohrawardi. La langue du traité est le farsi et a été dédiée à Muzaffaruddin Bolar Arsalan. Dans ce dernier traité, Qutbeddin Shirazi cherche à corriger un défaut fondamental du système de Ptolémée dans l'Almageste, à savoir que le mouvement des planètes ne se conforme pas forcément à un modèle uniforme et circulaire. Il a également écrit des critiques sous les opinions d'Avicenne et de l'imam Fakhr-Razi et a proposé ses propres recherches et explorations intellectuelles et théoriques. Le philosophe iranien cherche également à donner des éclaircissements sur le traité La Sagesse orientale écrit par le grand philosophe iranien Shahabuddin Yahya Sohrawardi. Dans le résumé du traité, il donne des explications sur certains mots difficiles à comprendre à faire un effort unique pour expliquer et corriger le contenu de ce livre. Qutbeddin Shirazi, l'astronome et cofondateur de l'Observatoire de Maroré, a une attention particulière aux mathématiques et dit dans le livre « Sélection de Muzaffar » à ce propos « La science la plus noble est la mathématique. » Il parle de l'exhaustivité des connaissances mathématiques qui comprennent non seulement les valeurs et les quantités, mais aussi le mouvement, la masse et le corps céleste et terrestre. Dans les sélections de Muzaffar, il a essayé de résoudre certaines difficultés mathématiques et de répondre à certains problèmes communs selon sa propre vision. Qutbeddin Shirazi était une figure bien connue de son temps dans la science de la musique et de la physique. Il a consacré une section détaillée de son encyclopédie en plusieurs volumes Perles de la couronne, meilleure introduction à la sagesse, à la musique. Il a parfois écrit des poèmes en persan et en arabe, dont certains ont été conservés dans ses biographies. En astronomie, Rotbeddin Shirazi a joué un rôle important à Maroré dans les observations qui ont mené à l'établissement des tables ilkhaniennes. Il en parle avec précision dans son traité. En médecine, il a été très connu pour son commentaire du premier livre du canon d'Avicenne, qui a été un ouvrage de référence pendant plusieurs siècles dans le monde musulman et qui a joué un grand rôle dans la diffusion de la médecine avicennienne, notamment en Inde.